très bonne question pour vous. Comment peut-on expliquer l'existence de l'univers? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On commence le livre d'Esther aujourd'hui. Quel bel exemple cette femme a été pour nous les femmes, et je dirais même pour les hommes. Voici les questions qu'on va poser à ce beau livre de la Bible. En quoi est-ce que le livre d'Esther diffère des autres livres de la Bible? Pouvons-nous voir une histoire d'amour dans le livre d'Esther? Est-ce que Dieu manifeste sa présence dans la vie de son peuple dans ce livre? Comment est-ce qu'on peut voir Dieu diriger son peuple dans ce livre? Est-ce que Dieu contrôle l'univers aujourd'hui? Comment peut-on expliquer l'existence de l'univers? Qui est-ce qui maintient l'existence de l'univers? Que signifie le terme « la providence de Dieu » ? Demeurez à l'écoute, nos connaissances du grand livre de Dieu vont sûrement s'accroître aujourd'hui. Le pasteur et Jean Joly est prêt à nous enseigner cette merveilleuse parole de Dieu. Mais premièrement, allons dans la présence de Dieu. Demandons-lui de nous enseigner lui-même par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on est à tes pieds. On veut être comme Marie qui était aux pieds de Jésus pour recevoir ses instructions. On veut être près de toi, goûter à ta présence et recevoir tes instructions. Enseigne-nous, Seigneur, parle à nos cœurs, fais-nous du bien par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous avons terminé sur un rappel que nous sommes là pour conduire des âmes au Seigneur et que nous devons prêcher l'Évangile en toute simplicité. De plus, nous devons croître spirituellement. C'est pour encourager les chrétiens de Corinthe dans cette croissance que Paul leur a écrit ses épîtres et qu'il les a visités. Aujourd'hui, nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous entreprenons l'étude du livre d'Esther. Nous ne sommes pas certains de l'identité de l'auteur du livre. L'historien Joseph Flavius affirme que c'est Mardochée, et cette opinion était populaire dans la synagogue. Il pourrait que Mardochée, l'oncle d'Esther, en soit l'auteur. Esther chapitre 9, verset 29, nous suggère que c'est très probable. La reine Esther, fils d'Abicaïl, et le juif Mardochée écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les Purim. Ce verset ne prouve pas définitivement que Mardochée est l'auteur du livre. Cependant, l'auteur vivait en Perse, plutôt qu'en Palestine, car il connaît bien les coutumes persanes. De plus, il aurait pu consulter les écrits d'Esther et de Mardochée pour rédiger le livre. Voici le verset clé du livre d'Esther. « Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther, chapitre 4, verset 14. Esther était une Juive devenue reine alors qu'un complot était fomenté contre la nation juive. Ce complot ne visait rien de moins que le génocide des Juifs. Mardochée désire que sa nièce intercède pour son peuple auprès du roi de Perse. En quoi le livre d'Esther est-il différent des autres livres de la Bible? Le livre d'Esther est exceptionnel dans le sens que le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre. Nous ne retrouvons aucune référence à Dieu. Nous y trouvons aucun titre, pas même un pronom qui fait allusion à Dieu. Cependant, le roi païen est mentionné 199 fois. La prière n'est pas mentionnée, mais il ne faut pas s'en étonner puisque Dieu n'est pas mentionné. le livre d'Esther n'est jamais cité dans le Nouveau Testament. Nous n'y trouvons pas la moindre allusion à ce livre. Par contre, les superstitions des païens sont mentionnées. Les jours chanceux et ce livre nous fait pénétrer dans la cour païenne d'un grand monarque qui régnait sur le monde connu de l'époque. C'est vraiment un livre différent. Dieu aime son peuple. Le livre est aussi exceptionnel par le fait qu'il porte le nom d'une femme. Seulement deux livres de la Bible portent le nom d'une femme, soit les livres de Ruth et d'Esther. Le livre de Ruth illustre la rédemption. La rédemption est une histoire d'amour. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Le Seigneur Jésus s'est livré pour nous parce qu'il nous a aimés. Dans le livre d'Esther, nous avons une autre histoire d'amour. Dieu sauve son peuple par sa providence. Dieu gouverne l'univers dans lequel nous vivons par sa providence. Il gouverne toute sa création ici. Dans le livre de Deutéronome, avant que Dieu fasse entrer son peuple dans la terre promise, il leur a annoncé ce qui leur arriverait en tant que nation dans l'avenir. Il a tracé les grandes lignes de leur histoire. Il a annoncé la captivité babylonienne. Il a annoncé la destruction de Jérusalem par les Romains et que le peuple serait amené en captivité. C'est exactement ce qui s'est produit. Cependant, dans Deutéronome, chapitre 31, verset 18, Dieu dit « Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il leur a fait, en se tournant vers d'autres dieux. » Dans le livre d'Esther, Dieu cache sa face à son peuple. Oui, dans le livre d'Esther, Dieu se cache. Il cache sa face à son peuple. Mais Dieu se tient tout de même dans l'ombre, veillant sur son peuple. Le livre d'Esther nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes hors de la volonté de Dieu. Lorsque Cyrus a émis un décret permettant aux Juifs de retourner dans leur pays à la fin des 70 ans de captivité, ils n'y sont pas tous retournés. Moins de 60 000 Juifs ont accepté de revenir dans la terre promise. Ces chiffres sont donnés dans les livres d'Esdras, de Néhémie, d'Agée et de Zacharie. Qu'en est-il de la grande majorité qui sont restées dans leur pays de captivité? Quelques millions de personnes sont restées là où ils avaient été emmenés en captivité. Plusieurs naquirent après la déportation. Ils ne profitèrent pas du décret de Cyrus pour retourner dans leur pays d'origine. Ils auraient dû le faire, c'est ce que Dieu avait ordonné. Ils sont maintenant hors de la volonté de Dieu. Dans le livre d'Esther, nous avons le récit de ce qu'ont vécu les millions de personnes demeurées dans leur pays de captivité. Le livre d'Esther est important parce que ce sont les seules pages d'histoire que nous avons à leur sujet. Dans ce livre, nous voyons Dieu sous un nouvel angle. Quoique les Juifs ne soient pas dans la volonté de Dieu, nous voyons Dieu les diriger par sa providence. Le livre d'Esther nous montre la providence de Dieu en action. Qu'est-ce que la providence? Toutes les grandes doctrines de l'Église sont enseignées dans certains livres de l'Ancien Testament. Le livre d'Exode enseigne la rédemption, et le livre de Ruth souligne l'amour qui a motivé Dieu à nous racheter. Le livre de Job enseigne la repentance, alors que le livre de Jonas enseigne la résurrection. Toutes nos grandes doctrines sont illustrées dans l'Ancien Testament, et le livre d'Esther nous montre la providence de Dieu en action. Le peuple dispersé, qui demeure toujours en terre étrangère, contrairement à la volonté de Dieu, n'a pas obéi à ses ordres, car Dieu leur avait demandé de retourner en Israël. Ces Juifs sont restés derrière. Ils ont donc désobéi. Ils ont oublié Dieu. Ils sont éloignés de Dieu. Ils ne se tournaient pas vers Dieu lorsqu'ils avaient des difficultés. Au début de leur captivité, ils pouvaient dire « Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ?» Le psaume 137, verset 4. Ils ne pouvaient pas chanter les cantiques de l'Éternel. Le peuple s'est plutôt assis pour pleurer lorsqu'ils se rappelaient de Sion, la colline de Jérusalem. Mais maintenant, ils ont oublié Sion. La ville n'est qu'un amas de ruines. Ils ne veulent pas y retourner. Au début, ils avaient pris un engagement. « Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Le psaume 137, verset 6. Ils ont oublié Sion et leur langue est silencieuse dans ce livre. Ils ne louent pas Dieu et ils ne le prient pas. C'est ce qui fait que ce livre est si différent des autres. Mais qu'en est-il de Dieu? Bien, il ne les a pas oubliés. Comment est-ce que Dieu peut les diriger s'il le rejette? Bien, Dieu le fait par sa providence, chers amis. Le livre d'Esther nous enseigne la providence de Dieu. Qu'est-ce que la providence? Pardonnez-moi, mais je vais emprunter un langage théologique quelques instants. Voici une définition théologique de la providence. C'est le moyen par lequel Dieu gouverne toutes choses, animées ou inanimées, visibles ou invisibles, bonnes ou méchantes, vers un but noble, de sorte que sa volonté s'accomplisse. Ou tel que nous lisons dans les psaumes, « Et son règne domine sur toutes choses », le psaume 103, verset 19. Nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, « Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté ». Éphésiens chapitre 1er verset 11. C'est Dieu qui contrôle l'univers aujourd'hui. Oui, mes amis, même si certains pensent que ce contrôle lui a échappé des mains. Ce ne sont pas les créatures, les circonstances ou la chance qui mènent l'humanité. C'est Dieu qui est en selle et qui dirige tout. Nous devons bien saisir le sens de trois mots avant de bien comprendre la providence de Dieu en relation à l'univers matériel et à l'humanité en particulier. Première question. Qu'est-ce que la création? Le premier mot est création. Par création, nous entendons que Dieu a prononcé une parole, un décret, et l'univers est venu en existence. Avez-vous une meilleure explication proposée? Si oui, j'aimerais bien l'entendre. Des gens qui ne sont pas des experts dans la matière se prononcent en faveur de l'évolution. Je regrette, mais le mécanisme de celle-ci n'est pas encore expliqué. Dieu est loin d'être éliminé du portrait. D'où vient la matière de laquelle les étoiles et les planètes se seraient formées et à partir de laquelle l'homme aurait évolué? Ne me dites pas que la matière a toujours existé, car vous avez alors un univers infini. Si vous avez un univers infini, vous avez un être infini pour le contrôler. Nous nous retrouvons alors devant un dilemme. Il n'y a que deux sources d'explication possibles pour l'existence de l'univers. Premièrement, la spéculation. L'évolution en étant un exemple. Et avant l'évolution, il y eut d'autres théories proposées. Elles sont maintenant rejetées. L'autre source d'explication est la révélation. La seule façon que vous et moi, surtout en tant que chrétiens, comprendrons l'univers, par la foi. Nous savons que Dieu l'a créé, et la seule façon de le savoir est par une révélation de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Citation de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17. Soit que vous croyez en la création ou dans des spéculations. Chers amis, il n'y a pas de troisième choix possible. Qu'est-ce que subsister? Le deuxième mot est subsister. C'est Dieu qui maintient l'existence de l'univers. C'est parce que Dieu soutient l'univers qu'il continue d'exister. Nous lisons au sujet de Jésus-Christ dans l'Épître aux Hébreux. Et soutenant toute chose par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1 verset 3. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens, chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce qui tient l'univers en place? Qu'est-ce qui l'a fait fonctionner avec tant de précision que nous pouvons déposer une sonde sur Titan, un satellite de Saturne, ou envoyer un engin à la rencontre d'une comète ou d'un astéroïde? Les scientifiques peuvent prévoir la position des planètes et des corps célestes pour envoyer des satellites, les photographier de près et faire des analyses de leur surface. C'est un exploit remarquable qui démontre la précision avec laquelle l'univers fonctionne. Qui contrôle les systèmes solaires et les galaxies? Tenez-vous bien, voici la réponse. Le Seigneur Jésus. Il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Troisième question. Qu'est-ce que la providence? Troisième mot. Providence. C'est ce mot que nous allons examiner et étudier dans le livre d'Esther. La providence est la méthode que Dieu emploie pour gouverner l'univers. Il le fait avancer vers l'avenir au moyen de sa providence. La racine du mot providence signifie pourvoir. Dieu pourvoira. Rappelez-vous des paroles d'Abraham sur le mont Morija, lorsqu'Abraham et son fils Isaac y étaient allés pour offrir un sacrifice à Dieu. Ils avaient apporté tout ce dont ils avaient besoin, sauf une victime pour le sacrifice. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Genèse, chapitre 22, versets 7 et 8. 1900 ans plus tard, Dieu pourvu un agneau à cet endroit près duquel Jérusalem sera construite. Le Seigneur Jésus fut crucifié à Golgotha. C'est lui l'agneau que Dieu a pourvu. Il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Dieu pourvoit. La providence, c'est la main de Dieu derrière les événements que vit l'humanité. Lorsque Dieu ne tient pas le volant, il guide de la banquette arrière. Il est l'entraîneur qui émet des signaux du banc des joueurs. Il est le gouvernail submergé qui guide le navire. Dieu est le pilote de la veille de nuit. Il fait pivoter de lourdes portes sur des petites pentures. Dieu a rapproché les pleurs d'un bébé dérivant sur le Nil du cœur d'une princesse, et Dieu a utilisé cela pour changer la destinée d'un peuple. C'est cela, la providence de Dieu. La main de Dieu était derrière ces événements. Le livre d'Esther nous fait voir ce qu'est la providence de Dieu. C'est un bel exemple de celle-ci. Même si le nom de Dieu n'y est pas mentionné, nous voyons sa providence à chaque page de ce livre merveilleux. Les détails des événements racontés dans le livre d'Esther sont fascinants. Dieu sauve son peuple du génocide. Le récit aide le peuple de Dieu à garder la foi et l'espoir lorsqu'il vit des temps difficiles, des temps d'épreuves et de persécutions. Dieu ne nous délivre plus avec des miracles comme ceux qu'il a fait en sortant son peuple d'Égypte. Mais il le fait encore par la providence qu'il a exercée envers son peuple sous le règne d'Assuérus. Dans le livre, nous verrons comment Dieu a placé Esther auprès du roi et fit monter Mardochée en puissance dans la cour afin qu'il sauve son peuple. Nous verrons pourquoi Aman en voulait aux Juifs, ainsi que le complot qu'il a monté pour faire périr Mardochée et exterminer les Juifs. Nous verrons la détresse des Juifs dispersés dans tout l'Empire, ainsi que la manière dont Dieu a déjoué les complots d'Aman. Finalement, nous verrons toutes les précautions qui ont été prises afin que ces événements ne soient jamais oubliés. Cette délivrance que Dieu accorde à son peuple montre son amour pour lui, malgré le fait que ces Juifs n'avaient pas voulu retourner en Palestine afin de reconstruire la ville et le temple. Le récit confirme la véracité du psaume 37, versets 12 et 13. « Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. » Maintenant, débutons l'étude du livre au premier chapitre et gardons son but à notre esprit. Illustrer la providence de Dieu. Le livre ouvre avec le code de loi d'un royaume païen et d'une difficulté qui s'y présente, un problème matrimonial. C'est une affaire très personnelle qui bouleversera le royaume, et elle aura des répercussions internationales. Chers amis, débutons cette lecture de nouveau livre, celui d'Esther, chapitre 1, verset 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Premièrement, Soulignons qu'Assuérus n'est pas le nom du roi, mais un titre. Il signifie « père élevé » ou « roi vénérable ». C'est comme César qui est devenu un titre des empereurs romains. Assuérus ne permet pas aux historiens d'identifier ce roi persan. En fait, il subsiste une divergence d'opinion au sujet de son identité. Certains érudits pensent que l'Assuérus du livre d'Esther est Xerxès, le roi de Perse qui a porté le royaume à son zénith. C'est le roi qui a fait le dernier grand effort de l'Orient pour dominer l'Occident, et ce fut tout un effort. Certains historiens ont même proposé que Assuérus et Esther sont les parents du Cyrus mentionné dans Ésaïe, chapitre 44, verset 28, ainsi qu'Ésaïe 45, verset 1er. Au temps de Darius, il n'y avait que 120 provinces. Le roi avait établi 120 satrapes pour les gouverner. Daniel fut l'une des trois personnes que Darius établit à la tête des satrapes afin de s'assurer qu'ils servent fidèlement le roi. Maintenant, l'empire compte 127 provinces. C'est maintenant un empire si grand qu'il est au point où il peut s'écrouler sous son propre poids. Xerxès a dû réprimer plusieurs révoltes avant d'être assassiné. Ensuite, son empire fut conquis par Alexandre le Grand. Le royaume du Seigneur Jésus sera plus grand et plus puissant que cet empire. Tous les royaumes de la terre seront soumis au Seigneur Jésus. De plus, ce sera un royaume éternel. Xerxès a régné sur un royaume, un grand empire s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie. L'empire couvrait le croissant fertile qui était le cœur du monde connu. Poursuivons la lecture. Esther, chapitre 1er, versets 2 et 3. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Les banquets qui se font aujourd'hui ne sont rien comparés aux banquets grandioses qu'Assuérus organisa. Le royaume était formé de 127 provinces, et une délégation de chaque province était présente au festin. Il devait donc y avoir environ 2000 convives au banquet. C'était tout un événement grandiose qui a dû coûter plusieurs millions de dollars. Il ne dut pas y avoir de banquet plus grandiose que celui-ci. C'était tout un événement dans l'histoire du royaume. Comment Dieu peut-il intervenir dans un tel environnement? Bien, par sa providence, Dieu se tient dans l'ombre et surveille les siens. Et un jour, nous assisterons, si du moins vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Vous pourrez participer à l'un des plus grands banquets, celui qui aura lieu lors des noces de l'agneau, alors qu'il y aura des myriades de personnes qui assisteront à cette fête. En feras-tu partie? Y seras-tu? Seras-tu l'un des convives qui pourra participer à ce plus grand banquet, appelé noces de l'agneau? Pour y être présent, il faut porter l'habit de noces. Qu'est-ce que l'habit de noces? Eh bien, la Bible nous dit que c'est être revêtu de la justice de Dieu. Comment faire pour être revêtu de la justice de Dieu? C'est en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Lui, il est le juste. Lui a accompli l'œuvre de justice et il peut nous en revêtir. Vous n'avez qu'à le lui demander. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant le livre d'Esther, chapitre 1, verset 4, à chapitre 2, verset 3.
Merci, Régent. On a appris aujourd'hui ce qu'est la providence de Dieu. Tu nous as dit que c'est le moyen par lequel Dieu gouverne toute chose vers un but noble, de façon à ce que sa volonté s'accomplisse dans tout l'univers. Et tu as terminé en disant que Dieu se tient dans l'ombre et surveille les siens. C'est tellement bon d'entendre ça. Il y a des moments où on peut réellement goûter que Dieu est là, présent au milieu de son peuple, présent dans notre vie personnelle. Mais il y a des moments d'épreuve aussi, où on ne goûte pas à la présence de Dieu. Et pour moi, ce sont les moments où je peux réellement dire que je marche par la foi. Je sais qu'il est là. Mais dans ces moments, je suis heureuse de ne pas avoir négligé la lecture de sa parole. Quel encouragement pour moi de me rappeler ses promesses et sa fidélité, si bien enseignées dans des centaines de récits. Et quel encouragement aussi de me rappeler tous les bienfaits qu'il m'a accordés au cours de ma vie, même avant que je le connaisse. Mes amis, je peux sincèrement vous dire que j'ai bénéficié de la providence de Dieu toute ma vie. Régent nous a dit ce qu'était la providence de Dieu selon les théologiens. Et c'est intéressant de voir que même dans le dictionnaire Larousse, il est dit que la providence est la suprême sagesse qu'on attribue à Dieu et par laquelle il gouverne toutes choses. Mais j'aime bien aussi ce que ce dictionnaire ajoute comme définition de la providence. Il dit que c'est une personne ou un événement qui arrive à point pour sauver une situation ou qui constitue un secours exceptionnel. Des fois, les gens parlent de Dieu sans le savoir. Mes amis, je peux réellement vous dire avec certitude que j'ai reçu plusieurs fois le secours exceptionnel de Dieu, qu'il est bien des fois arrivé à point pour me sauver dans toutes sortes de situations horribles dans lesquelles je m'étais moi-même placée, surtout avant de devenir une enfant de Dieu. Dieu veillait déjà sur moi, mais je ne le savais pas. Heureusement qu'il le faisait, parce qu'il y a plusieurs situations où j'aurais pu être gravement blessée, ou malade, ou bien pire, des situations où j'aurais pu perdre la vie. Et j'étais loin d'être prête à mourir dans ces périodes-là. Je suis l'objet de la providence de Dieu. Et toi, mon ami, es-tu dans une situation présentement où tu as besoin du secours de Dieu, de sa providence? Es-tu aux prises avec la drogue, comme je l'ai déjà été moi-même? Es-tu dans une situation amoureuse que Dieu n'approuve pas, comme je l'ai déjà été? Si tu l'es, je te comprends. Je sais que ça te fait souffrir énormément. Mais Dieu, dans sa providence, veut te donner le moyen de t'en sortir. Il l'a fait pour moi. Il veut le faire pour toi. Personnellement, il m'a amené à réaliser ce qui me faisait réellement souffrir. Ce n'était pas le fait que mon amant me rendait malheureuse, c'était le fait que mes péchés n'étaient pas pardonnés et que je ne pouvais pas jouir de la présence de Dieu dans ma vie. Et j'ai compris que je devais me repentir, c'est-à-dire prendre la décision de ne plus vivre dans le péché. Et j'ai appris que Dieu voulait me pardonner, qu'il avait donné son Fils Jésus, afin qu'en croyant en lui, je ne périsse pas, mais que j'aie la vie éternelle.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143. Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.